Bonjour tout le monde. Vous avez bravé la pluie pour venir rencontrer Ouli Loust. Donc on est très content de vous accueillir aujourd'hui avec l'aide d'Annette Munker qui va être notre interprète de l'allemand. Donc merci d'être venue. Pour vous présenter, donc Ouli, vous êtes une autrice autrichienne, ça sonne très bien d'ailleurs, originaire de Vienne et de la Basse-Autriche et installée à Berlin depuis 1995. On a découvert votre travail en France avec Air Pussy, chez l'employé du mois, un récit muet et érotique. Et puis en 2010, on vous a reconnu surtout avec Trop n'est pas assez, votre récit autobiographique avec votre copine Eddie, vos années punk, vous avez 17 ans, et vous partez d'un coup de tête en Italie avec pour seul bagage les vêtements que vous portez et puis un seul duvet pour deux. Alors, elles vont y rester toutes les deux pendant 2 mois, traverser la frontière par la forêt, faire de nombreuses rencontres à Rome, à Naples, jusqu'à Palerme en Sicile, pour se retrouver au cœur de la mafia locale. C'est une aventure très libre, assez cocasse, et puis parfois aussi glaçante, lorsqu'on découvre que vous êtes régulièrement confrontée à des regards ou même à des violences avec certains Italiens. Bon, on en parlera un peu plus après. Et puis, en 2014, vous adaptez le roman de Marcel Beyer, Voix de la nuit, qui est une très belle adaptation du roman qui a le même titre. Et c'est une fiction, cette fois-ci, sur un acousticien qui est employé par le régime nazi pour veiller au son des propagandes. Et aujourd'hui, on vous retrouve pour votre nouveau livre, Alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien, dont nous allons parler. Qui a été en sélection officielle cette année au festival d'Angoulême et qui fait suite donc à Trop n'est pas assez. Ça se passe 5 ans plus tard. Entre ces deux livres, entre 17 ans et 22 ans, Ouli a eu un enfant, les parents en ont la garde et elle s'est installée pour dessiner à Vienne dans les années 90. On va alors suivre quelques années à la fois douces et mouvementées. Elle va trouver sa place dans la société ou tenter de la trouver, galérer aussi avec son travail en tant qu'artiste, multiplier des petits jobs. Et puis surtout, le sujet principal de ce récit, ça va être l'amour à deux. Et surtout en partageant un amour avec 2 hommes pendant 2 ans. Un compagnon un peu plus âgé dans le théâtre, c'est Georges. Et un jeune amant nigérien qui vit en Autriche depuis 5 ans, Kimata, mais aussi une relation plus éloignée avec son fils et ses parents, qu'on va retrouver au fur et à mesure de l'album. Donc c'est sous forme de témoignage, c'est avec toujours un trait simple, vif, touché parfois par l'érotisme, très expressif, bref, un dessin qui est au service du récit et des émotions. Et ça donne un récit très touchant, très troublant sur ces années assez mouvementées dans votre vie. Alors, on va commencer avec justement l'écriture de soi, cette difficulté aussi, peut-être paradoxe, entre être un auteur, un narrateur et aussi un personnage. J'aimerais bien qu'on parle d'abord des couvertures, justement, qui sont quasiment les mêmes en langue originale. Les titres sont toujours très très longs. Ils prennent de la place sur les couvertures, ils s'étalent. Et derrière se cache, notamment sur votre premier livre, un regard frontal. Le vôtre à 17 ans, mais à 17 ans, ce sera celui du chat. Alors, quelle a été votre démarche pour ces deux couvertures ?
Haben Sie die beiden Cover selber ausgesucht?
Diese beiden, ne? Ja, ja, ich mache die Cover selbst. Hier ist es ein 17-jähriges Punkmädchen und in Sizilien, in dieser sehr patriarchischen Gesellschaft, war es für Frauen verboten, nach vorne zu schauen. Man musste immer nur auf den Boden schauen. Weil wenn ich einen Mann anschaue, dann ist das eine Einladung zum Geschlechtsverkehr in Sizilien, wenn ich schaue. So. Und ich bin ein Punkmädchen und ich schaue.
Donc la couverture du premier livre fait surtout appel à l'histoire. Donc elle est très jeune, elle part en Sicile. Et en Sicile, on est encore dans un système assez ancien, si je peux dire. Donc si en tant que femme, vous regardez quelqu'un et vous le regardez droit dans les yeux, ça ne va pas, ou c'est une invitation directe à une invitation sexuelle, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça qu'elle a choisi cette couverture, une femme qui regarde droit vers l'autre.
Und hier wollte ich das wiederholen, das mit dem Blicken, weil ich hatte eine Katze, die im Buch, es gibt eine, zwei Katzen in dem Buch, und ich wollte gerne diesen, dieses Katzen Anmutung wiederholen, und so kam dieses Cover zustande.
En fait, le deuxième, c'est un peu un rappel par rapport au premier livre. Donc là aussi, ce qu'on voit immédiatement, ce sont les yeux. Dans les deux, vous remarquez un regard assez perçant, et ça fait aussi allusion au livre dans lequel il y a deux chats qui jouent également un rôle durant toute l'histoire.
Und ich entschuldige mich für die langen Titel. Hier ist der Titel im Deutschen noch viel länger. Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens.
Et elle s'excuse pour la longueur des titres. En fait, en allemand, le titre du premier livre est encore plus long, parce qu'en allemand, c'est « Ceci est le premier jour de la du reste de ta vie ».
Ich habe natürlich kürzere Titel gesucht. Manchmal ist es mit der Inspiration aber so, dass man eine Idee hat und man versteht, das ist es. Okay. Und das war nun mal hier der Fall. Ich hatte eine Vision für den Titel.
Donc elle a bien évidemment cherché à trouver un titre un peu plus court, mais il faut aussi suivre ses instincts, il faut aussi suivre ses intuitions, ses visions. Et à chaque fois, c'était assez clair, c'était ce titre-là. Et donc elle a tout simplement fait place à sa vision et gardé le titre dans toute sa splendeur, longueur.
Also man kennt das ja, wenn plötzlich etwas im Kopf auftaucht und man sagt, oh ja, das ist es, so, ohne es zu suchen. Mm-hmm. Yeah.
Alors, sans même chercher, vous connaissez toute cette sensation, vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit, vous dites « Ouais, exactement, c'est ça ». Donc, c'est ça ce qui s'est produit.
Merci. Et donc, dans ces deux récits, donc, ça fourmille de détails, énormément de souvenirs. Et bah, mine de rien, toutes ces aventures remontent à presque 20 ans. Donc, comment travaillez-vous sur vos souvenirs pour vous remémorer autant de détails?
Wie ist das möglich, dass Sie, trotzdem es nun schon so lange her ist, sich an so viele Details so detailgetreu erinnern?
Ich habe Tagebücher geführt von ca. 40% der Geschichten jeweils.
Donc elle a écrit en fait comme un diary, hein, donc sur tout ce qu'elle a vécu, et là-dedans elle trouve au moins déjà 40% de ce qu'on retrouve dans les livres.
Man erinnert sich gut, also ich erinnere mich sehr gut an meine Zeit als 17-jährige. Je länger die Zeit vergeht, erinnere ich mich immer weniger von meiner Zeit als 40-Jährige, weiß ich weniger als wie als 20-Jährige.
Et en même temps, elle a vraiment beaucoup de souvenirs de l'époque où elle avait 17 ans, des souvenirs qui sont encore bien présents aujourd'hui. Elle a même envie de dire qu'elle se souvient moins du moment où elle a 40 ans que des moments où elle a 17 ans.
Und man darf jetzt nicht vergessen, dieses Buch spiegelt nicht nur meine Erinnerung, sondern ich bin auch Autorin und weiß, was ein Comic braucht. Ein Comic braucht viele Details. Ich kann, also wenn es nur meine Erinnerung spiegeln würde, wäre es vielleicht weniger detailreich. Aber ich konstruiere die Vergangenheit nach, weil ich brauche diese Landschaft, ich brauche diese Hintergründe.
Donc en fait, je reconstruis. Je suis aussi en quelque sorte une technicienne, auteur, et je sais ce dont une BD a besoin. Une BD vit avec beaucoup de détails. Donc en fait, je reproduis, je me remémore, et comme je suis aussi écrivaine, je remplis vraiment cette histoire avec autant de détails que possible.
Also ich habe natürlich eine ungefähre Erinnerung, wie es circa aussah, aber natürlich, also die viele Details sind nachempfunden. Wie es ein normaler Autor auch macht, der seine Geschichte erfindet.
Donc je fais comme chaque auteur qui invente une histoire, on revit ces moments en fait et on les retranscrit, on les réécrit.
Ich habe jetzt gerade einen Comic gezeichnet, einen kurzen Strip über einen Comicbuchhändler in Wien und ich konnte mich überhaupt nicht erinnern, wie er aussah und ich habe ihn auch nachempfunden und später und jetzt haben wir auch über Facebook Leute gesagt, das ist doch der Comicbuchhändler aus dem 7. Bezirk in Wien. Und ich sage, keine Ahnung. Und sie, ja, ja, ganz genau getroffen. Es war der Richtige. Aha. Also es stimmte.
Ja. Donc en fait, c'est vraiment, sans vraiment le savoir, elle cherche dans ses souvenirs très profonds. Et là, récemment, elle a écrit un tout petit truc, et dessiné un tout petit truc. En fait, ça joue à Vienne. Et un des personnages clés, c'est quelqu'un qui a un magasin de BD à Vienne. Et elle a écrit dans les moindres détails, sans être sûre que ce soit vraiment ça. Donc il y avait aussi un peu cette liberté d'artiste. Et en fait, sur Facebook, après, elle s'est rendue compte qu'il y avait des gens qui lui disaient « Ah mais oui, mais on reconnaît totalement, mais c'est celui qui est au 7e arrondissement, là, à Vienne, ce vendeur de BD ». Et elle était presque surprise elle-même de la ressemblance qui vient donc vraiment à la surface.
Et alors en parlant de cette écriture de soi qui s'accompagne en BD d'une représentation dessinée de soi, ça vous fait quoi de vous représenter et est-ce que ce n'est pas parfois un peu intrusif pour votre vie personnelle par rapport aux proches autour de vous
gesagt, sie zeichnen ja quasi sich selber mhm. und sie zeichnen auch andere. Ist es jetzt nicht wie ein Eingriff auch in das eigene Leben oder vielleicht das Leben anderer? Oder
ah, ja. Muss man das ist jetzt die Frage. Das ist die berühmte Frage. ich bin nicht da, also ich zeichne, es geht mir nicht um meine eigene Geschichte, sondern ich habe angefangen, Comics zu zeichnen über andere Menschen wie ein Journalist. Ich habe Porträts gezeichnet über andere Menschen. Und in diesem Falle porträtiere ich mich selbst. Ich bin der Autor, der auf mein Leben schaut wie eine zweite Person. Mm-hmm.
Donc au départ, j'ai écrit des histoires sur d'autres personnes, mais là, vraiment, c'est une rétro-perspective en quelque sorte. Donc je suis l'auteur qui me regarde à moi-même. Donc j'ai une vision de plus haut concernant moi-même, et c'est ça ce que j'écris, et c'est ça ce que je dessine.
Es war eigentlich eher Zufall, dass ich zum autobiografischen Erzählen kam, weil ich diese Geschichten in meiner Vergangenheit habe. Und wenn ich nun Geschichtenerzähler bin, ich kann sie nicht einfach verschwenden. Ich muss sie benutzen. Und wenn ich meine eigenen Geschichten erzähle, bin ich völlig frei, zu erzählen, was ich möchte, weil ich muss keine Privatsphäre von jemandem anderen respektieren. Es ist viel leichter.
Pour elle, c'est même plus simple parce qu'en fait, elle a tout ce matériel qui est en elle, qu'elle ressort et avec beaucoup de liberté, bien évidemment. Mais il est plus facile quelque part d'utiliser tout ce matériel. Elle parlait de matériel et ça serait même presque criminel de ne pas s'en servir puisqu'il est là. Et c'est la raison pour laquelle elle aime bien l'utiliser et elle dit d'autant plus que je parle de moi. Donc tout ce que je dis, c'est je m'engage qu'à moi-même et non pas je m'engage pas pour les autres.
Und dann kommt meistens die Frage, fällt es Ihnen nicht schwer, so Intimes zu erzählen? Und dann sage ich immer, das ist das, was ich als Leserin auch von Büchern erwarte, von Literatur. Ich erwarte, dass sie tief schürfen.
Et après, la question qui suit généralement, est-ce que ce n'est pas compliqué de parler d'une façon aussi intime de soi-même ? Et elle dit non, bien au contraire, parce que ce que j'attends quand je lis un livre, c'est justement que je rentre dans l'autre, que je connaisse son intimité. C'est ça qui m'intéresse, donc je dois aussi le fournir moi-même.
So, es gibt hier diese Persönlichkeitsspaltung aus der Heldin und der Autorin. Und ich bin die Autorin. 20 Jahre später. Ich habe eine Distanz und ich erlaube mir, es öffentlich zu erzählen.
Donc en fait, il y a les deux personnages. Il y a d'un côté l'héroïne de l'histoire et de l'autre côté, il y a l'auteur qui jette un regard dans le rétroviseur. C'était 20 ans avant. Et donc, en quelque sorte, c'est ce travail qui est très intéressant et c'est ça ce qu'elle fait.
Ich könnte gleich die nächste Frage beantworten. Kannst du übersetzen?
Donc, maintenant, en fait, elle va reprendre elle-même la prochaine question.
Ja? Oui? Okay. Die nächste Frage ist, fällt es Ihnen schwer, über diese Gewalt und über Unglück Erlebnisse zu berichten.
Mm-hmm. Alors la question, ça serait, est-ce que c'est difficile pour vous de voir cette violence et de d'entendre
Gewalt und
unglücklich sein.
Ja, also so schwierige
Probleme. vivre des situations difficiles, en fait.
Und dann ist die Autorin in mir immer glücklich, wenn es einen Konflikt gibt, einen großen Konflikt, weil ja, das ist gutes Material.
Okay. Et l'auteur en moi est très content, parce qu'à partir du moment où il y a un conflit, et plus il est grand, plus il est important, plus il est intéressant à traiter. Donc ça, c'est vraiment l'auteur qui se réveille dans toute sa splendeur et qui prend ce matériel pour le travailler.
Oui, merci. On va prendre d'ailleurs, histoire de parler voilà, de cette relation, et vous êtes très présente, mais c'est aussi Georges et Ikumata qui sont très présents dans ce récit. Donc j'ai pris une des planches. Est-ce que vous pourriez nous parler déjà de ce début de relation avec Georges? Comment vous l'avez dessiné? Comment vous avez voulu travailler sur cet homme que vous avez connu pendant longtemps, qui était donc acteur, musicien et écrivain, et qui est plutôt calme et rassurant avec vous? Alors peut-être en prenant cet exemple de planche où vous êtes dans l'appartement avec lui, c'est très calme, très serein, et puis les chats sont là aussi.
Also sie schreiben über sich selber. Sie schreiben auch sehr viel über andere, vor allem zwei Männer, da ist Georg und da sind Kim. Die sind die ganze Zeit im ganzen Buch sehr präsent. Georg ist jetzt eine der Schlüsselfiguren, ist jemand, der ganz anders ist als sie selber. Er ist ruhig. Er vermittelt ein Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit. Und da ist besonders eine Szene, das ist alles um sie herum, ruhig, friedlich, da sind die Katzen. Also, et la question en fait, c'est la description de
ce personnage peut-être, et après pour parler de Kimata, pour vraiment expliquer comment elle a travaillé dans son récit pour présenter ces deux hommes.
Also, wie haben sie gearbeitet, um diese beiden auch sehr verschiedenen Männer darzustellen?
Ja, ich versuche eben so gut wie möglich. Aber ich merke oft, dass wenn Georg immer als der Ruhige und Vernünftige beschrieben wird, dass es mir nicht völlig gelungen ist, ihn zu porträtieren, weil er war auch furchtbar nervös. Aha. Er hatte psychische Probleme, also er war depressiv. Nur für mich war er wahnsinnig beruhigend. Ich fand ihn sehr, für mich, mir gab er ein Gefühl von Sicherheit. Das heißt, das ist mein Gefühl ihm gegenüber. Er selber denkt, er ist viel nervöser und aufgedrehter.
Donc on demande pour la description de ces personnages. Donc le premier, Georg. En fait, elle dit, j'ai essayé de le portraiter de façon dont moi je l'ai vu. Et je me rends compte que peut-être ce n'est pas exactement comme ça qu'il était ou qu'il se voyait lui-même. Parce qu'on le présente ou on le vit dans le livre comme quelqu'un qui est plutôt calme, qui est plutôt posé, qui est plutôt raisonné, qui est rassurant. Or, il avait aussi toute une autre facette. Il était nerveux, il était plutôt dépressif. Il avait tout un côté un peu psychologie pas simple qui se trimbalait. Et en fait, elle se rend compte que c'était sa propre vision sur lui qui donnait cette image de la sécurité, et c'était peut-être pas vraiment tel qu'il était dans la vraie vie.
Et si Georges l'a lu, comment a-t-il perçu cette lecture?
Aha, und wenn Georg also die Geschichte gelesen hat, wie hat er selber sie wahrgenommen?
Er war sehr gerührt. Er hat allerdings auch den Prozess begleitet. Ich habe ihm immer die Seiten geschickt, die ich gezeichnet habe mit ihm.
Aha.
Und am Schluss habe ich ihm das gesamte Buch gegeben und er hat geschrieben, dass es ihn so berührt hat. Er war emotional sehr aufgewühlt und er hat sich sehr, sehr gefreut, weil er denkt, dass seine eigenen Probleme viel größer sind als das, was gezeigt wird.
Als das, was gezeigt wird, okay. Alors, Georges, effectivement, il a été là quasiment tout le temps pendant qu'elle travaillait. Il était surtout très touché. Donc à chaque fois qu'elle finissait une planche où lui il figure, elle lui montrait, elle lui demandait aussi ce qu'il en pensait. Et ce qui en ressort, c'est que vraiment pour lui aussi, ça a été un moment qui l'a profondément chamboulé de se voir sur ce récit. Et aussi, lui, il pense que ses problèmes, en fait, étaient beaucoup plus grands. Peut-être même qu'il a l'impression qu'il a été montré sous un angle presque plus positif qu'il l'était ou qui se voyait lui-même.
Et donc quelques temps plus tard, vous rencontrez donc Kimata. Alors Même question. Comment vous traitez sur le papier cette relation avec lui?
Die gleiche Frage für Kimatan, den Sie also etwas später kennenlernen. Wie haben Sie dann seine Geschichte quasi aufs Papier gebracht?
Tja, ja, wie gesagt, man versucht halt, das so gut wie der Person gerecht zu werden. Bei Kimata gab es noch das zusätzliche Problem, dass ich bei den Gewaltszenen nicht ganz... Also, ich hätte sie leichter zeichnen können, wenn er weiß gewesen wäre.
Okay. Alors, on essaie à chaque fois, bien sûr, d'être le plus juste possible quand on présente un personnage. On essaie vraiment de se positionner pour leur donner justice en quelque sorte à ce personnage. Et en fait, Kimata avait certainement encore bien plus de problèmes que Georges. Et elle dit qu'il aurait été probablement bien plus facile de parler de ces scènes et de dessiner ces scènes s'il avait été blanc et non pas noir.
C'est einfach ein gesellschaftliches Problem.
C'est un problème de sociétal, un problème de...
Hier ist Sexismus und Rassismus unangenehm verbunden.
Mm-hmm. Donc le racisme et le sexisme qui se nouent dans cette histoire et ça rend le tout encore plus compliqué.
On le voit d'ailleurs sur cette planche, il y a quelque chose qui est assez touchant dans ce récit aussi, c'est le rapport, je trouve, à la peau. On va avoir des clins d'œil en fait, liés à Trop n'est pas assez, votre premier livre. Sur certaines planches, on va voir votre petit tatouage anarchie. On va voir aussi ces vergetures liées aussi au petit Philippe que vous avez eu. Pourquoi avoir voulu montrer des aspects comme ça physiques qui, et c'est très bien, je trouve, qui souvent sont complètement oubliés dans le dessin, surtout dans l'autobiographie où on veut parfois se rendre peut-être au mieux de son image.
Also, Sie finden das sehr berührend, weil Sie über viele Aspekte gesprochen haben, die selbstverständlich sehr intim sind, aber auch nur, es ist zum Beispiel, man spricht auch über die Haut. Mhm. Die Haut wird oft erwähnt in Ihren Büchern, auch im letzten Thron, dem davor, Thron Basel. Sie haben da zum Beispiel ein Tattoo. Mhm. Sie sprechen auch darüber, dass halt der Bauch etwas gelitten hat durch die Kinder oder das Kind. Und Sie finden es also auf der einen Seite sehr mutig, weil man ja sich meistens doch besser von seiner schöneren oder besseren Seite zeigen möchte und diese Details dann doch einzubauen.
Dieser Körperperfektionismus, ich finde, es ist ein Problem, dass man nicht mehr durchschnittlich aussehen darf.
Donc elle dit, pour elle, c'est plutôt un problème que tous ces corps qui doivent être parfaits tout le temps, ce qu'on nous montre aussi dans les médias. On sprechen auch die Medien an dabei.
Ja, absolut.
Voilà. Les médias, donc pour elle, c'est plutôt un problème, parce que pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'être quelqu'un de normal, quelqu'un de la moyenne?
Weil eigentlich sind Falten und Spuren nicht so schlimm, also sie sind eigentlich nicht so eine furchtbare Sache. Ich habe die Schwangerschaftsstreifen immer ein bisschen wie die Rinde eines Baumes gesehen und war fasziniert davon, bis ich verstanden habe, wie hässlich es gesehen wird.
Donc elle dit que ces traces du temps, les rides, donc les mimiques qu'on prend, pour elle, c'est pas quelque chose de grave, c'est... Et surtout, ce n'est pas quelque chose d'atroce, comme souvent on veut le présenter dans notre société. Et elle parle notamment aussi du ventre d'une femme qui a enfanté. Pour elle, en fait, elle a utilisé une image qui est très, très belle. Elle me disait que je le vois plus comme un arbre et toutes ces différentes couches qu'on voit dans l'arbre. Donc, ça ramène tout ça à quelque chose de très naturel et de plutôt beau. Et c'est après qu'elle s'est aperçue qu'en fait, oui, dans la vision des autres, peut-être aussi parfois quand on y pense, c'est plutôt quelque chose qui est disgracieux, qui n'est pas joli du tout.
Und im Gesicht ist es ähnlich. Also jetzt, wo die Falten immer mehr werden, ich persönlich finde es interessant, aber es wird von Betrachter ja anders gelesen. Man sieht dann plötzlich traurig aus oder nicht so strahlend, weil diese Falten sagen, so. Aber das ist tatsächlich nur ein soziales Problem. Das ist, weil ich mir denke, wie sehen mich andere? Und ich finde es wichtig, dass man sich auch, dass man Makel auch gerne haben kann. Deswegen zeichne ich es in den Büchern so besonders gerne, um Zuversicht zu vermitteln.
Okay.
Oder, ja.
Oui, en fait, c'est un message, bien sûr, toujours un message d'espoir, si je peux le dire, dans le visage. À un moment donné, on va avoir des rides. Est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas bien? C'est surtout dans le regard de l'autre qu'on va avoir ce jugement, pas forcément soi-même. Pour elle, c'est plutôt quelque chose qui est intéressant, puisque ça parle d'un passé, ça parle de vous, ça parle de ce que vous avez vécu. Par contre, quand on regarde les rides d'expression, comme on dit, la bouche qui descend, qu'est-ce que ça représente pour l'autre? Il va se dire, oh là là, celle-là, elle a dû avoir une vie difficile, ou ceci ou cela n'était pas comme elle aurait souhaité. Et quelque part, ça la touche et ça lui fait mal de voir ça. Donc elle dit, moi, j'aimerais plutôt non seulement qu'on respecte ces signes, mais presque qu'on les chérit, qu'on les aime bien, qu'on ne les refoule pas. Et c'est pour ça qu'elle a dessiné ça avec autant de détails, probablement, pour justement presque le mettre en valeur.
Weil das Problem ist, dass Frauen, bei Frauen wird ein körperlicher Makel als Charakterschwäche gelesen und das ist furchtbar.
Ah ouais.
Also,
okay. Ne? Ouais, ouais, okay. Ja. Parce que quelque chose qui ne serait pas parfait dans le corps, souvent, par les autres, c'est interprété comme une faiblesse aussi de votre caractère, qui a une traduction de quelque chose de physique aussi sur votre façon d'être ou de la personne que vous êtes.
Also, ich habe ein bisschen übertrieben, aber, ja.
Bon, elle a un peu exagéré, mais enfin.
Oui, c'est ce qui vous rend, c'est ce qui vous rend belle dans ce récit. Et je pense que je ne suis pas la seule à vous remercier aussi pour mettre en avant quelque chose qu'on voit très peu en bande dessinée. C'est cette relation physique, toutes ces scènes érotiques très très belles et qui sont complètement assumées. Alors, à ce sujet, comment vous êtes perçue, quel retour vous avez justement à être une des rares autrices, même auteurs, hein, à aborder la sexualité?
Also, zunächst möchte sie sich bedanken, denn es ist ja doch sehr selten, dass man sowas von einem Autoren so live mitbekommt. Vor allem auch, dass es als BD dann auch noch sowohl visuell als auch in den Worten wiedergegeben wird. Und es sind viele erotische Szenen dabei, auch sehr schöne Szenen. Aber wie kommen Sie im Endeffekt damit klar, das so aufgeschrieben zu haben, wiedergegeben zu haben?
Bei den Sexszenen geht es hier um eine politische Haltung. Frauen und Erotik werden ja gerne in der Kunst dargestellt, aber eben von Männern. Und es ist sehr wichtig, dass Frauen hier die Autorenrolle übernehmen und aus unserer Perspektive zeigen, was wir für Gefühle haben.
Surtout là, elle parle des scènes sexuelles. Pour elle, c'est plus un acte politique, en quelque sorte. C'est vrai que les Beaux-Arts aiment beaucoup mettre en valeur des scènes où on voit du sexe, où on voit le corps de la femme. Mais à chaque fois, c'est le corps de la femme éclairé par les hommes, enfin masculins. Hein. Et on voit très rarement une démonstration de la femme, des désirs de la femme sur elle-même. Et c'est ça, en fait, ce qu'elle a voulu montrer, et aussi les sentiments qui sont derrière ces présentations, de ce qu'elle ressent en tant que femme. Et c'était ça le travail le plus important.
Und dazu kommt, dass ich es sehr reizvoll finde, für diesen fantastischen Zustand, in dem man sich befindet, Bilder zu finden, das in Bildern zu beschreiben.
Et en plus, pour elle, c'est quelque chose qui est très important et qui presque l'excite, on peut dire. C'est de pour ces moments fantastiques qu'on peut trouver dans une relation sexuelle, de le traduire en image. Donc, quelle image est-ce que j'aurais envie de mettre sur cette émotion que j'ai vécue pour la faire ressortir?
Und die Inspiration waren erotische französische Comics. Leider weiß ich keinen Namen, aber ich weiß, dass ich mit 20 welche in der Bibliothek gefunden habe und ganz fasziniert war.
Ah, et elle a été très fascinée parce qu'en fait l'inspiration vient de certaines BD françaises qu'elle a trouvées quand elle était encore très jeune dans la bibliothèque, elle avait 20 ans et elle a trouvé, malheureusement elle se souvient d'aucun titre, mais elle a pu trouver des BD où il y avait des scènes érotiques, sexuelles dans ces BD. Mais bon, voilà, donc c'était ça l'inspiration.
Et donc, dans Trop n'est pas assez, vos parents semblaient quand même très inquiets aussi de ne pas avoir de nouvelles lors de ce périple italien. Et puis quand vous partez à Vienne, donc alors que j'essaie d'être quelqu'un de bien, vous leur cachez certaines choses sur votre relation avec Kimata à la maison. Est-ce que à la publication, comme c'est quand même une part d'intime, une part aussi qui vous appartenait, est-ce que les parents et même Philippe ont lu les livres et ont eu comment ont-ils réagi à la lecture?
Im ersten Buch sind sie ja dann einmal verschwunden, haben nicht mehr viel von sich hören lassen. Wie haben die Eltern das gelebt? In Wien war es ja dann nochmal so, dass sie auch nicht immer unbedingt alles gesagt haben, was sich in ihrem Leben abspielt, zumindest den Eltern nicht, zum Beispiel auch was die Relation jetzt mit dem Kim anbelangt. Diese ganzen doch sehr intimen Aufzeichnungen. Wie haben Philipp und die Eltern die Lektüre aufgenommen?
Ja, das ist eine sehr peinliche Angelegenheit. Man muss wirklich bedenken, Literatur wird nicht für die Eltern und die eigenen Freunde geschaffen.
Là, c'est un sujet un peu plus compliqué, un peu plus sensible peut-être. Donc il faut bien se dire, on n'écrit pas ce genre de choses pour les relations très proches, on l'écrit pas pour ses parents en fait.
Also wie gesagt, ich wollte meinen Eltern diese Bücher nicht zeigen. Aber ich musste es natürlich tun, weil es stand in der Zeitung, da waren Interviews mit mir. Und naja, sagen wir mal, meine Eltern wissen hoffentlich, dass ich ihnen nicht alles erzählt habe, um sie zu schützen.
Alors, elle aurait pas eu envie vraiment que les parents regardent ou lisent ses livres. En même temps, elle avait guère le choix, puisque c'était dans la presse, il y avait des interviews d'elle un peu partout, donc c'était très difficile de le cacher. Et elle espère quand même que les parents comprennent que si elle n'a pas tout dit, s'il y a eu quelques petites cacheteries, c'était plutôt pour les protéger.
Also meine Eltern sind tatsächlich gute Menschen, die mich trotzdem lieben.
Et mes parents sont des personnes très très bien, ils m'aiment quand même.
Und mein Sohn ist heute 32 und er weiß natürlich, dass ich kein bürgerliches Leben führe.
Donc mon fils, il a 32 ans aujourd'hui, et bon, c'est pas non plus un secret pour lui que je vis une vie qui n'est pas une vie extrêmement rangée.
Und das große Glück, das ich habe, ist, dass er selbst sich auch eher zu alternativen Lebensstilen hingezogen fühlt.
Et j'ai la chance en plus que lui aussi, donc mon fils, il se sent plutôt attiré aussi par des mouvements alternatifs, etc.
Das heißt, eigentlich ist mein Sohn in meiner Familie der, mit dem ich mich am allerbesten unterhalten kann und der am allerbesten versteht, warum ich Dinge getan habe.
Donc en fait, c'est mon fils qui me comprend le mieux dans la famille. On se comprend et on aime beaucoup se parler sur ce genre de choses. Et c'est lui aussi certainement qui comprend le mieux ce que j'écris.
Glück gehabt.
Elle a vraiment eu de la chance. Elle considère que c'est la chance.
Il y a une petite anecdote qui m'a plu aussi dans, dans Alors que j'essaie d'être quelqu'un de bien, c'est page 136, lorsque votre fils est dans les vignes, donc toute la famille se retrouvait et renverse le raisin d'un seau. Et puis, alors, je crois que c'est l'oncle Walter qui lui dit qu'il fait des bêtises, donc il va être enlevé par le Krampus. Alors, c'est vrai que finalement, dans tous vos récits, ça pourrait se passer dans une autre ville, avec une autre culture. Et là, pour une fois, on sent qu'il y a une histoire derrière, un petit conte derrière. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce folklore autrichien?
Seit 136, da sind Weinberge. Ihr Sohn spielt da in den Weinbergen und hat das Malheur, dann denn einfach die Weintrauben auszuschütten. Und daraufhin kommt man, sie haben gesagt, der Krampus wird dich irgendwann holen, der wird dich packen. Und sie sprechen sonst eigentlich nicht viel von der Folklore in Österreich, in anderen Dingen, aber da schon. Was hat sie dann also dazu erwähnt?
Die Geschichte war so lustig. Ich fand es so lustig, wie er den Onkel Walter am Schluss zurechtgewiesen hat. Ne? Mhm. Er hat ja gesagt, also als der Onkel ihn später getroffen hat, hat er gesagt, na, hat sich der Krampus schon gefunden? Und dann sagt er, ja. Er hat gesagt, er sucht den Onkel Walter. Ich fand das einfach lustig. Das war in einem Tagebuch.
Okay. Donc elle a trouvé ça aussi dans ses récits qu'elle a écrits quand elle était très très jeune. Et en fait, pour elle, c'était tout simplement une anecdote qui était très rigolote, parce qu'en fait, il y a donc l'oncle qui veut réprimer en quelque sorte le petit-fils qui a fait une bêtise, et lui dit, bah, tiens, c'est le Krampus qui va venir te chercher. Et en fait, c'est lui qui trouve la parade, et il lui répond, quand l'oncle revient en lui disant, bon, alors, il t'a trouvé ce Krampus, il a dit, oui, je l'ai bien vu, mais en fait, c'était toi qui le cherchais.
Ich fand das super. Und dann gab es noch den zweiten Punkt, dass mein Sohn auf dem Land aufgewachsen ist und der Kimata war der erste Schwarze, den er gesehen hat. Und hat ihn tatsächlich für den Krampus gehalten. Im ersten Moment.
Et puis l'histoire continue en quelque sorte parce que son fils donc il a vraiment grandi à la campagne et Kimata était le premier noir qu'il voyait de toute sa vie. Et quand il a vu, il a vraiment pensé que c'était ça le Krampus.
Und das ist nun lustig und traurig gleichzeitig, weil wir wissen, dass diese Besetzung der schwarzen Farbe auch eine psychologische Wirkung auf uns hat, die ein bisschen seltsam ist. Also es gibt in unserer Mythologie ein paar eigenartige Assoziationsketten.
Donc c'est à la fois rigolo et en même temps c'est triste. Parce que quand on pense que la couleur de la peau, ça joue aussi sur la psychologie. Et c'est dommage, en fait, il y a des mythologies qui parlent de ça, et c'est quand même plutôt dommage qu'on trouve ces associations entre la couleur et certaines qualités.
Oui, et d'ailleurs, quand on le voit même sur ces deux planches, puisqu'il y a une scène, voilà, il y a cette scène très, très drôle, et juste après... On passe à une autre scène, toujours dans la vigne, avec Uli et sa maman qui commence à lui dire entre les vignes qu'il faudrait qu'elle soit plus responsable, qu'elle s'occupe, qu'elle garde son fils. C'est ce que je trouve très bien aussi dans votre livre, c'est que pour une fois, on voit aussi, vous montrez que vous n'êtes pas qu'une mère, que vous êtes aussi une femme, et finalement vous parlez beaucoup plus de votre relation personnelle, vos histoires de couple, tout en ayant quand même parfois une petite once de culpabilité avec ce fils.
Direct nach der Szene mit dem Krampus kommt eine andere Szene, die sie auch sehr sehr interessant gefunden hat, denn da geht's die Beziehung zwischen ihm und dem Sohn. Der ihnen dann sagt, Mama, du müsstest doch irgendwann mal auch ein bisschen vernünftiger werden. Ich bin dein Sohn, du müsstest dich im Prinzip mehr um mich kümmern. Ja.
Er sagt es nicht.
Nein?
Meine Mutter sagt, willst du ihn nach Wien nehmen? Philipp sagt es nicht.
Philipp sagt es nicht. War nicht eine Szene, wo er auch sagt, Mama, wann nimmst du mich mit?
Ach so, ja, aber nur in die Stadt.
Er will nicht dort leben. Er will nicht dort leben, er will nicht mit. Im Endeffekt, die Frage ist im Prinzip diese Relation Mutter und Frau. Mhm. wie sie das gelebt haben, denn da sind Momente, naja, wo sie sich ein bisschen schuldig fühlen, dass sie ihn doch nicht wirklich vielleicht genug sehen. Also dieses und trotzdem die für sie, dass das Frausein trotzdem komplett ist, auch wenn man jetzt vielleicht nicht ständig als Mutter agiert, dass einem auch das eigene soziale Leben wichtig ist.
Das Problem, also ich war ja 17, als ich schwanger wurde, das heißt, ich war noch sehr jung und meine Mutter und ich, also meine Eltern und ich, wir haben gemeinsam beschlossen, dieses Kind zu bekommen. Also ich wollte mit 17 nicht Mutter werden. Mhm. Und dann verging die Zeit und ich wollte immer noch keine alleinerziehende arme Mutter sein, die im Supermarkt arbeitet, um ihr Kind zu ernähren, während mein Sohn bei meinen Eltern wunderbar aufgehoben war. Also ja, ich hatte enorme Schuldgefühle, weil als Frau, als Mutter muss man die haben. Mhm. Alleine die Vorstellung, dass ich nicht ständig Sehnsucht habe nach meinem Kind, verursacht Schuldgefühle.
Okay. Alors, il faut surtout comprendre aussi, quand elle est tombée enceinte, elle avait 17 ans, donc elle était très très jeune. Et elle dit que ça a été une décision commune d'avoir cet enfant, une décision commune entre elle et sa mère. Donc elle savait parfaitement que l'enfant serait très bien, donc il a grandi à la campagne avec ses grands-parents. Et elle ne se voyait pas, même au bout de quelques années, prendre n'importe quel job plus ou moins minable, uniquement pour faire vivre son enfant, alors qu'il pouvait avoir une très belle enfance ailleurs. N'empêche qu'elle a eu quand même beaucoup de culpabilité. Cette sensation, je dois être une bonne mère, pourquoi mon enfant ne me manque pas à tout instant, pourquoi est-ce que je vis ma vie ici, là où je suis, pourquoi est-ce que pas à chaque instant je pense qu'il est là, que je suis la mère. Et donc oui, effectivement, ça a été un chapitre difficile.
Ich habe ihn am Wochenende immer gesehen und dennoch immer ständig haben mich die Menschen gefragt, vermisst du ihn nicht? Ist das nicht schrecklich, von deinem Kind getrennt zu sein? Und ich habe ihm gesagt, nein. Aber man darf nicht lachen dabei. Es ist tabu. Also als Mutter hat man ein Imageproblem, ja.
Ouais, donc c'est plutôt un problème d'image. Encore une fois, c'est le regard de l'autre, hein. On revient souvent à ça. Donc en fait, elle le voyait le week-end, elle le voyait quasiment tous les week-ends. Mais n'empêche, la question revenait à chaque fois. Mais tu, il te manque pas ton fils? Ça te suffit de le voir juste comme ça le week-end? Et c'est donc vraiment ce regard. Non, ça ne lui manquait pas. Elle trouvait que c'était bien comme c'était. Mais c'est le regard de la société qui n'admet pas qu'une mère veuille voir son enfant de temps à autre et pas l'avoir avec elle tout le temps.
Das hat mich auch geärgert. Kim hatte ja auch einen Sohn und niemand fragt ihn, ob er sein Kind vermisst. Niemals.
Et là aussi, elle fait bien référence à ce sujet à Kim, donc cet homme noir qui lui aussi a un fils. Et jamais on lui pose la question, mais c'est pas horrible qu'il ne soit pas tout le temps avec toi? Il ne te manque pas à chaque instant de ta vie? Donc à aucun moment cette question est posée à un homme.
Et oui, tout à fait. Et ce qui est assez beau aussi dans votre travail, alors je l'ai remarqué en relisant là les trois livres et en voyant une nette différence aussi avec Voix de la nuit. C'est que pour vos deux récits autobiographiques, votre trait, votre dessin est plus simple. Il y a peut-être moins de... Il est plus au service de la narration. Tandis que dans Voix de la nuit, peut-être parce que c'est une adaptation d'un roman, vous avez voulu capter une autre ambiance où les scènes sont plus graphiques, les cases sont moins engaufrillées, c'est plus agité. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce parti pris, de ce dessin plus simple pour l'autobiographie, peut-être contrairement à Voix de la nuit? Pourquoi cette différence entre les deux? Et je vais montrer des planches de Voix de la nuit pour vous montrer la différence.
Also in den drei autobiografischen Comics findet sie, dass die Zeichnungen einfacher sind, simpler sind, weil sie sich vielleicht mehr auf die Geschichte selber oder auf das Erzählen konzentriert haben, als jetzt auf die Zeichnungen. Wohingegen bei dem Voix de la Nuit findet sie, die Zeichnungen sind nervöser, viel Detail. Ist es jetzt, es war selbstverständlich von Ihnen gewollt, aber wieso, warum, wie haben Sie das?
Voix de la Nuit brauchte sehr viel Atmosphäre, weil der Roman eine atmosphärische, surreale Sprache hatte. Und ich fand es spannend, Bilder für diese Sprache zu finden. Deswegen die Farbigkeit. Und
also das ist der erste Teil. En fait, l'atmosphère de Voix de la Nuit est très différente. Ce livre vit beaucoup de cette atmosphère un peu surréaliste, surréelle. Donc elle a voulu aussi donc, donner d'autres couleurs, un autre style de dessin pour le traduire. Et voilà, surtout aussi les questions de couleurs qu'on voit très, très rapidement.
Und bei dieser Geschichte ist es eine Punk-Geschichte, eine wilde, ein Road-Movie. Und ich fand, es musste ein bisschen roh aussehen.
Ruhig?
Roh.
Ah, tiens. Okay. donc, l'autre livre, c'est une jeunesse de punk. C'est sauvage, c'est cru. On a parlé tout à l'heure de ce mot. C'est un road movie, donc les dessins étaient beaucoup plus simplistes. Ça ne nécessitait pas le même trait que pour l'autre livre. Et tout à l'heure, je veux juste peut-être le dire, on avait parlé de ce mot cru, parce que quand j'ai lu sa biographie pour me préparer un peu pour notre rencontre aujourd'hui, tout d'un coup, je me suis dit, ça, en français, les gens disaient, ouais, c'est un livre qui est assez cru. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Je ne trouve pas de mot en allemand pour le traduire. Donc, j'ai pris le dictionnaire, j'ai regardé. Et ça parlait des légumes crus, je dis, mince, je ne trouve toujours pas mon mot. Comment est-ce que je peux l'exprimer? Et je trouvais qu'un seul mot en allemand qui est un peu dans la même direction, mais très frustrant, si on veut donner justice à ce mot. Et il fait référence à quelque chose. Je vais vous dire le mot en allemand, c'est « Versaut ». Zao, c'est la truie, donc c'est quelque chose qui fait relation souvent à la sexualité, mais du côté un peu malsaine, un peu... quelque chose en tout cas qui n'est pas chouette. Or, le terme cru reste relativement neutre. On peut après l'interpréter comme on veut. Et c'est là aussi que je lui posais la question, est-ce qu'il y a cette différence aussi entre les Français et les Allemands ? Dans le regard sur la sexualité, sur dans un autre aspect de ce livre, mais je trouve que c'est intéressant aussi parce que il y a un aspect culturel aussi qui joue dans ça, hein, comment on voit une mère, comment on voit une femme, comment on voit la sexualité. Il y a aussi vraiment le cercle culturel qui joue beaucoup.
Vielleicht sollte ich noch sagen, dass ich grundsätzlich inspiriert bin von amerikanischen Alternative Comics oder die Bücher, die Association herausgebracht hat. Also einen etwas, also nicht dieses handwerkliche, virtuose des klassischen Comic. Das hat mich nie so interessiert. Ich schaue es mir gern an, aber ich will es nicht zeichnen.
De toute façon, elle a été inspirée plutôt par les BD américaines. Donc elle cite notamment Association.
Alternative,
pardon. Mm. Alternative, mais pas américain.
Alternative américaine, oui.
Ok. Oui, donc la scène alternative américaine. Et donc c'est surtout de ça qu'elle s'est inspirée. Elle a regardé les autres. Elle les trouve bien, mais c'est pas le style qu'elle a envie d'adapter pour elle-même.
Ich weiß nicht, ob die Menschen hier vertraut sind mit dieser. Ja, also.
Est-ce que vous connaissez ces les BD dont elle parle, la scène un peu plus alternative américaine? Est-ce que ça vous parle?
Est-ce que vous avez des auteurs, peut-être?
I liked Chester Brown, Joe Matt, and also I liked like Eddie Campbell, England, this type, or Persepolis maybe.
Oh, no, Fun Home.
Yes.
Alison Bechdel.
Yes. And und ich mag es gerne, wenn es nicht so perfekt ist, weil ich habe dann mehr Möglichkeiten, eine interessante Komposition zu zeichnen, wenn ich nicht ständig achten muss darauf, dass die Perspektive naturalistisch ist.
Ah, okay. Et aussi, elle aime beaucoup quand c'est pas complètement parfait. quand dans sa composition, elle ne va pas se poser à chaque instant la question est-ce que l'éclairage qui vient de là est naturel, est-ce que c'est vraiment que ça correspond à la réalité. Ce n'est pas ça qui l'intéresse.
D'ailleurs, ça fait peut-être écho à Monogatari, donc, que vous avez fondé en 1999 à Berlin. C'est un groupe de dessinateurs de bandes dessinées qui prône le fond sur la forme. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette association.
Je spreche von dieser Gruppe, die Sie gegründet haben in Berlin. Geht es da auch mehr um den Inhalt als um die Form?
Man kann das nicht trennen. Es geht mir auch um die Form. Es ist furchtbar zu denken, mich interessiert das Erzählen nicht, mich interessiert die Form nicht und nur das Erzählen. Es ist nur eine andere Art des Erzählens. Und die Gruppe Monogatari hat sich mit Comic-Reportage beschäftigt.
Monogatari? Mit Comic?
Comic-Reportage.
Comic-Reportage, ja. Okay.
Guy Delisle, Joe Secco.
Donc on ne peut pas, on peut pas le séparer, on peut pas les séparer l'un de l'autre. C'est pas que la forme ne l'intéresse pas, c'est juste une autre façon de dessiner, de faire passer son message. Et aussi le groupe donc elle a créé vraiment s'intéresse avant tout au reportage BD.
Also zum Beispiel mir geht's um Ausdruck. Und wenn ich sehe, die Zeichnung hat diesen richtigen Ausdruck, dann lasse ich sie, auch wenn sie vielleicht ein bisschen ärmer aussieht.
Mm-hmm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment c'est l'expression, c'est l'impression que donne un dessin. Et si je le regarde après, et je trouve que vraiment cette ambiance, cette atmosphère que j'ai voulu montrer y est, ça me suffit. Et je ne regarde pas si chaque truc est absolument réel. C'est cette expression artistique qu'elle cherche de l'impression.
Merci.